que c'est cette connerie?
C'est le Canu Info. Ah,
bah, je savais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Wow.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut tes papiers, ton permis, ton vol, voler et ton fichier. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends une machine dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est
quoi?
C'est quoi? C'est quoi?
Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez, paniquez tout. Attends, paniquez pas.
Niquez tout.
Paniquez pas, niquez tout.
Canu Info du vendredi.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On est vendredi, vous êtes bien sur 102.2 Radio Canu. Il est 19h10 et c'est l'heure du Canu FM, du Canu Info plutôt.
Et dans le Canu FM Info, les infos qu'il vous faut, on va d'abord parler de migration et de répression en vous parlant de notre camarade Emilio qui est en prison suite à une mobilisation à la frontière franco-italienne.
On vous parlera ensuite de DataJust ou comment l'État veut centraliser toutes nos données.
Et on verra, on fera un petit retour sur la révolte aux Antilles.
On conclura avec les bons de cantine qui deviennent payants dans les prisons françaises.
Et on finira par un agenda ou pas du tout? Enfin, moi j'en ai pas fait en tout cas, mais...
Il y a un petit agenda qui est prévu. Et évidemment, un petit ACAB pour conclure. Et un générique qui refuse de se caler.
Sans papier.
Le voilà.
Migration.
Frontières.
Expulsion.
Centre de rétention.
Frontex.
Asile.
Réfugiés.
Racisme.
Clandestin.
Europe forteresse.
Répression.
Calais.
OQTF.
No border.
Et alors ouais, pourquoi je voulais vous parler de cette histoire d'Emilio? Et ben parce qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? En fait, il y a une personne qui est morte à la frontière franco-italienne. Et du coup, ça permet à la fois de revenir sur qu'est-ce qui se passe à cette frontière-là, notamment parce qu'il y a un rassemblement dimanche à Clavière. Et aussi pour revenir sur l'histoire d'Emilio. Donc en gros, pour vous dire, voilà, Emilio, c'est une personne qui a été arrêtée le 3 décembre 2021 et qui a été extradée de l'Italie vers la France et incarcérée à la prison qui est juste à côté de Marseille, qui s'appelle la prison d'Aix-Luns. Et donc Emilio, et ben c'est qui? C'est un ancien poissonnier de 67 ans. En fait, c'est un militant du mouvement Notave et aussi très engagé dans la solidarité avec les migrants et les migrantes de passage entre le Val des Souza et le Briançon. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est accusé de violence aggravée sur flic, parce qu'il y a eu du coup le 15 mai une manif entre Clavière et Montgenèvre. Du coup, c'est souvent des choses qui sont organisées à cet endroit-là. Et là, c'était notamment en fait une manif qui était organisée suite à l'expulsion de la Casa Cantoniera, qui était un refuge autogéré pour migrants et migrantes qui est à Oux, juste de l'autre côté de la frontière italienne. Et donc, il y avait une manifestation, et Emilio, lors de cette manifestation, en fait, comme il a une prothèse au genou, il marchait un peu moins vite. Et du coup, il s'est fait. Il y avait les flics qui essayaient de repousser la manif, d'empêcher la manif de passer. Du coup, Emilio était assis dans un coin. Et en fait, il y a un gendarme qui a attaqué Emilio, qui lui a balancé une grenade, qui a essayé de le matraquer. Emilio, du coup, s'est défendu, effectivement. Sauf que le policier, lui, avait quand même 45 ans de moins que Emilio, donc on peut se demander comment Emilio a pu effectivement lui faire mal. La police française, en tout cas, a porté plainte contre Emilio, et il y a eu d'abord une assignation à résidence en Italie, et finalement il a été arrêté en fait par la police italienne et extradé vers la France. En fait, l'idée, c'est que on a envie de faire passer un peu Emilio pour un leader du mouvement No Border, en fait, parce que en fait, des fois, il a des photos où on le voit, et aussi parce qu'on le reconnaît, parce que c'est le plus ancien du cortège généralement, quoi. En fait, on le fait vraiment passer pour un terroriste lorsqu'il était escradé. C'est un truc de ouf. Ils ont mis une cagoule sur la tête. Il a été emmené en hélicoptère, nanani, nanana, comme si c'était un dangereux terroriste, un dangereux prisonnier. Alors qu'en fait, bon, c'est juste un militant de 67 ans. Il n'y a eu aucune information qui a été donnée à sa famille, ils n'ont pas rendu ses lunettes. Enfin, il y a eu tout un truc comme ça où vraiment qu'on l'a traité comme quelqu'un d'hyper dangereux. Et là, actuellement, ben, il est toujours en prison à la prison juste à côté de Marseille. Et du coup, c'est possible de lui écrire. Je peux vous donner. Bon, voilà, son numéro d'écrou, c'est 89 145. C'est à la maison d'arrêt d'Aix-Lyon, 70 route du château de Montrobert. Nanani, nanana. Mais le mieux, ça serait d'aller sur le site qui s'appelle Passa Montagna, ou même sur plusieurs sites Mutu, Mars Info ou Rébellion, où vous avez l'adresse exacte, pour pouvoir lui écrire. Et en fait, ça permet de mettre en lumière là ce qui s'est passé aussi. Le 2 janvier, du coup, à la même frontière où Emilio justement se battait contre cette frontière-là et contre le nombre de personnes qui essaient de traverser cette frontière-là, et sur le nombre de morts et le nombre de personnes qui sont traumatisées à cette frontière, et sur la réalité de l'État, complètement de la politique du racisme d'État qui est mis en place à cet endroit-là, parce que du coup, le 2 janvier, il y a une personne qui a été retrouvée morte. C'est une personne qui s'appelait Fatala Bellafail, et qui du coup tentait de traverser la France, de rejoindre la France à travers la frontière franco-italienne. C'est la 7e personne qui meurt depuis 2018 à cette frontière. C'est pas un événement isolé, c'est une vraie frontière, la frontière vraiment à cet endroit-là est meurtrière, mais parce que la PAF, parce que la gendarmerie, parce que l'État tient absolument à empêcher les gens de passer. C'est la police et c'est l'État qui tue ces personnes-là, c'est pas les montagnes. Et du coup, il y a une mobilisation qui est appelée dimanche 16 janvier, donc ce dimanche, à 13h à Clavière, avec une manifestation qui partira à cet endroit-là. Donc tout ça pour rappeler que les frontières encore et toujours tuent, que ce soit en Méditerranée ou que ce soit dans les Alpes, que c'est possible de se joindre à des mobilisations au niveau des frontières via les camps Passa Montagna, ou en écrivant par exemple à Emilio, dont vous retrouvez l'adresse sur Passa Montagna, encore une fois. Voilà, du coup, c'est sûr que c'est pas des endroits qui nous donnent envie de rêver. Par contre, peut-être que les montagnes, elles peuvent servir à autre chose que à tuer des gens.
Canu Info.
Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info. Nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et on continue encore et toujours avec des volontés de centraliser les données de tout le monde pour les besoins de l'État. Ça a commencé fin mars 2020, donc pendant le confinement, où on imaginait qu'il pouvait peut-être y avoir deux, trois autres trucs urgents dont il fallait s'occuper. C'est le ministère de la Justice qui s'est autorisé à traiter massivement les données personnelles présentes dans ses décisions avec le fichier DataJust. L'objectif affiché, développer un obscur algorithme d'aide à la décision d'indemnisation des préjudices corporels. Déjà, juste là, on a déjà plutôt peur. Et malheureusement, ça existe. Ici, le fantasme de la justice prédictive s'accompagne d'une dangereuse méthode. Sous couvert d'expérimentation, l'État s'affranchit des lois qui protègent les données personnelles et la vie privée. La Quadrature du Net avait déposé un recours l'an dernier contre ce fichier. L'audience publique s'est tenue devant le Conseil d'État vendredi dernier et le rapporteur public a trouvé que c'était tout à fait OK. Alors ce fichier DataJust, donc, il autorise le ministère de la Justice à traiter les données personnelles des justiciables contenues dans les décisions de justice en matière de dédommagement. Concrètement, ce sont des décisions qui ne sont pas anonymisées et qui sont transférées des bases de données gérées par la Cour de cassation et le Conseil d'État pour leurs besoins internes vers un méga fichier du ministère de la Justice. Alors, il faut quand même voir que les données qui sont traitées là-dedans, elles sont extrêmement larges. Donc, il y a les noms et les prénoms des personnes mentionnées. Donc, rien d'anonyme, leur date de naissance, les genres, les liens de parenté avec les victimes, les lieux de résidence, les informations relatives aux préjudices subis, les données socio-professionnelles, les données relatives à des infractions et condamnations pénales, ou encore des données relatives à des fautes civiles. Mais surtout, c'est le numéro des affaires qui sera conservé. Donc, même en enlevant le nom et le prénom, finalement, on peut tout retracer et tout remonter. Il suffit de chercher avec le numéro d'affaires. Ce sont donc des données qui sont à la fois très nombreuses et très sensibles, qui sont traitées par DataJust. Mais ça n'empêche pas le ministère de la Justice de s'autoriser à traiter ça pour des finalités bien vagues, hein, parce que la prédiction des dommages et intérêts et ce type de justice, dans les films, ça peut éventuellement être rigolo, mais dans la vraie vie, c'est non seulement inefficace, mais surtout très dangereux. Évidemment, la CNIL s'inquiétait déjà de cette volonté de tout centraliser, et la Quadrature avait contesté la validité du décret avec un premier mémoire l'année dernière et un mémoire en réplique la semaine dernière. Au cours du déroulé de l'affaire, l'État s'est bien douté que les données collectées par DataJust pourraient ne pas être nécessaires. Dans une série de questions adressées au gouvernement, il lui demandait aussi de se justifier concernant la pertinence de traiter des données telles que le nom des personnes ou le numéro des affaires. La réponse du ministère de la Justice souligne la fébrilité du gouvernement. En substance, le gouvernement répond au Conseil d'État qu'il faut traiter beaucoup beaucoup de données pour savoir lesquelles seront par la suite pertinentes. En voilà un procédé très sérieux. En résumé, le ministère explique sans honte qu'il ne sait pas vraiment à quoi l'algorithme il est en train de travailler servira, ni vraiment quelles données il y aura besoin d'exploiter, mais du coup, il aimerait bien s'octroyer le droit de fouiller largement dans l'intimité des gens. Et c'est malheureusement pas la première fois qu'il fonctionne comme ça. Avec le même discours, c'est la CNIL qui intervenait aussi à propos de la loi sécurité globale. La présidente de l'autorité censée protéger le droit donnait un mode d'emploi illégal pour ne pas appliquer les règles. Elle proposait au Sénat de poser l'étiquette expérimentation pour s'enfranchir des règles. Parce que du coup, il y a la loi, il y a le droit, et puis quand on expérimente, finalement, ça donne le droit de ne pas respecter la loi. Les exemples sont nombreux de ce genre de pratique. Finalement, une expérimentation, ça donne un peu le droit à l'État de faire tout et surtout n'importe quoi. Le rapporteur public du Conseil d'État a toutefois conclu la semaine dernière au rejet du recours, validant la largesse avec laquelle le ministère de la Justice s'est autorisé à analyser la vie intime des personnes. Une fois de plus, le Conseil d'État ne sert certainement pas les citoyens, mais bien l'État, qui lui-même n'a jamais été pensé pour servir les citoyens. Et le message envoyé au gouvernement est explicite. Vous pouvez à peu près tout faire, on ne vous arrêtera pas. Alors, on espère malgré tout que la CNIL, qui est encore un petit peu utile à des moments, réussira à bloquer tout ça, et éventuellement peut-être des juridictions européennes qui pourraient empêcher tout ça. En tout cas, soyez prudents et sachez que assez vite, dès que vous passerez devant la justice, l'État aura accès à toutes les informations vous concernant. Et peut-être même ils vont nous commencer à ficher les personnes qui se révoltent aux Antilles. Récemment, et ils auront droit à leur place dans le fichier DataJust.
Et alors oui, dans les Antilles, bah, alors c'est vrai que c'est pas une nouvelle complètement fraîche, mais en fait, je trouvais ça ouf ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça m'intéressait d'y réfléchir et du coup, ça m'intéressait un peu de lire des choses là-dessus. Du coup, je trouvais un texte qui me plaisait. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler, même si je suis bien d'accord que c'est pas de l'actualité brûlante. En même temps, bah, c'est bien de se rappeler ce qui s'est passé, même si c'était il y a un mois, et de voir à quel point c'était important. Alors pourquoi moi, c'est une révolte qui vraiment m'a intéressé, m'a touché, mais en fait c'est parce que il y avait un peu ce truc, quoi. Il y avait un peu ce truc de révolte hyper populaire, hyper qui part de plein de gens différents et qui a des revendications hyper larges et en même temps qui arrive à structurer et à créer quelque chose qui va réussir à quand même. À un moment, j'ai l'impression de faire flipper le pouvoir et un peu déborder. C'est pas non plus une révolution de. Mais voilà, mais il y a quand même eu un moment où j'ai l'impression, moi, que l'État s'est dit à flipper, quoi, à ce moment-là, quoi. Et aussi, parce que ça m'a vachement choqué sur ce que c'était en termes de révolte, de répression derrière coloniale, vraiment, quoi. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Dans les Antilles, c'est le 15 novembre, en fait, il y a d'abord une grève générale qui est déclarée en Guadeloupe, et une semaine après, c'est exactement la même chose qui se passe en Martinique. On part d'abord de l'obligation vaccinale, l'instauration du pass sanitaire et compagnie qui est effectivement l'élément déclencheur. Mais assez vite, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de revendications qui dépassent celle-ci. Il y a du coup dans toutes les Antilles des ronds-points et des barrages qui sont organisés. Et là, il y a des revendications qui sont hyper multiples, un peu comme ce qu'on a pu retrouver dans le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, mais comme dans d'autres. En fait, elles deviennent, au-delà des questions sanitaires, ça devient social et économique. Et en fait, on retrouve aussi les revendications de 2009 de la Guadeloupe et de la Martinique. Là où il y avait eu un énorme mouvement de grève là, à ce moment-là, où il y avait la question, mais en fait c'est exactement les mêmes questions qui sont posées, il y a la question de la vie chère. Donc en fait, à titre d'exemple, en gros ça coûterait 40% plus cher les produits alimentaires entre la métropole et les îles, alors même qu'il y a énormément de bas salaires et que il y a des produits de consommation courante comme qui sont produits sur place, et donc il y a vraiment la question de la vie chère et aussi autour du gaz, de l'essence et compagnie. Et aussi il y a tout un problème de rationnement de l'eau aux Antilles qui fait qu'il y a toute une partie de la population qui est privée d'eau pendant plusieurs jours, et notamment les personnes qui vivent dans les endroits les plus précaires. Et du coup c'est dans le cadre de d'une administration coloniale que le gouvernement français a voulu imposer des mesures sanitaires autoritaires et un pass sanitaire. Et donc il y a très vite eu du coup des barrages, une grève générale, et en plus de ça, une explosion en fait vraiment de révolte et de réappropriation, de pillage, de destruction de magasins et compagnie, d'affrontements, d'émeutes. Et c'est à ce moment-là qu'il y a dans les journaux et compagnie des politiques, il y a Macron et tout ça qui va dire que ça va être très explosif. Il y a vraiment, à ce moment-là, une réaction étatique assez forte. Il y a 2250 policiers gendarmes qui sont envoyés. Il y a des militaires du GIGN accompagnés du RAID. Il y a vraiment de l'antiterrorisme qui est balancé. Il y a des blindés, des militaires qui se baladent dans les rues, des hélicoptères. Enfin, il y a un truc de ouf. Il y a un couvre-feu. Enfin, c'est vraiment un truc de situation de guerre, mais presque, quoi. Enfin, un truc où l'État a mis le paquet pour mater la révolte. Et alors c'est ce qui se passe effectivement, le retour à l'ordre finalement se fait, il y a la plupart des barrages et des ronds-points sont dégagés, mais c'est donc suite à une répression de ouf, tant d'un point de vue policier que justice. Il y a 150 personnes qui sont arrêtées, des comparutions immédiates. Il y a le procureur de Pointe-à-Pitre qui dit tolérance zéro, en 11 jours l'activité judiciaire est équivalente de ce que l'on fait en 4 mois. Alors il y a un petit recul de l'État qui reporte l'obligation vaccinale au 31 décembre. Bon. Okay. Et surtout, il y a la reconnaissance du cancer de la prostate qui est lié au chlordécone. Chlordécone, c'était un produit qui a été balancé dans toutes les Antilles et qui, en fait, on a dit que c'était un médicament qui était bien. En fait, en réalité, tout le monde s'est retrouvé hyper malade à cause de ce médicament. Et du coup, ça a été reconnu comme une maladie professionnelle. Et il y a la création de 1000 emplois aidés. Mais du coup, il y a des petites avancées de ce côté-là. Mais derrière, il y a un truc assez ouf où du coup, le ministre de l'Outre-mer s'appelle Sébastien Lecornu. Ça me fait un peu rigoler. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait rigoler. Qui vient aux Antilles et qui dit je refuse de dialoguer avec qui que ce soit qui ne condamnerait pas sans ambiguïté les violences commises. Et donc là, ça permet tout de suite de tac isoler, décrédibiliser. Ok, il y a les méchants, casseurs, et puis il y a les gentils qui veulent bien discuter justement. Et du coup, ça permet grave de diviser un mouvement qui justement était beaucoup plus complexe que ça. Et ça lui a permis aussi de diviser sur la particularité entre les îles. Parce que, en fait, en Guadeloupe, les organisations syndicales et politiques et militantes ont refusé de condamner les violences. Alors même qu'en Martinique, l'intersyndicale, elle, a même pendant le mouvement condamné les violences et les dégradations et appelé à la levée des barrages. Et donc le ministre, lui, il a resté à peine en Guadeloupe et hop, il est allé en Martinique en disant « Ouais, super, la Martinique, bravo, vous êtes bien sage, nanani, nanana. » Alors que les Guadeloupéens, ils sont complètement irresponsables. Et il balance même tout un truc autour de... En fait, un coup, il parle de l'autonomie, alors que c'était juste histoire de diviser complètement, en fait, de fracturer les gens. En fait, c'était pas du tout la question qui était là, à cet endroit-là. Et ça posait pas du tout la question des revendications des personnes sur les barrages. Du coup, ce mouvement aux Antilles s'est arrêté, là, actuellement. On se rappelle, du coup, qu'il y a eu un mouvement en 2009, il y a eu un mouvement l'année dernière, et du coup, on espère que peut-être le prochain mouvement aux Antilles, déjà pourra déboucher sur une victoire, voire même donner des idées à ce qui pourrait se passer en métropole.
Et puis on peut rappeler que quand même c'est difficile quand même quand on a empoisonné des populations entières de faire confiance à la politique sanitaire d'un gouvernement colonial. Ça paraît quand même assez ambitieux de ne pas vouloir négocier avec des gens qui leur en voudraient pour ça. Et on va enchaîner avec une histoire de prison. Alors ça se passe à la prison du Puy-en-Velay et à celle d'Auriac. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, évidemment, en prison, tout n'est pas payé. C'est pas le paradis que certains réacs et conservateurs voudraient nous faire croire. Il faut acheter vachement de trucs et évidemment, on les paye plus cher que dans la vraie vie. Mais surtout, les produits donc, qu'on peut acheter comme ça, donc du tabac, des produits d'entretien, de la nourriture supplémentaire, etc., ils sont livrés une fois par semaine. Et pour ça, il faut les commander. Alors la petite blague qui est arrivée donc dans ces deux prisons, c'est qu'on les commande avec des bons, les cantines, et qu'à partir de maintenant, les bons sont facturés. L'utilisation des bons, c'est-à-dire que pour qu'on te donne un bon pour commander quelque chose, il faut donner de l'argent en échange du petit bout de papier. Donc à Aurillac, par exemple, c'est 5 centimes pour du tabac, des journaux, des produits frais, 20 centimes pour un bon épicerie. Et en gros, pour la liasse complète, donc avec tous les bons, c'est 60 centimes que ça coûte maintenant à Aurillac et 50 au Puy-en-Velay. Alors on rappelle quand même que effectivement, vivre en prison, ça coûte des sous, qu'il y a des produits qui devraient être distribués de façon gratuite mais qui ne le sont pas systématiquement et que l'État se fait régulièrement rappeler à l'ordre pour ça, mais que pour autant, il n'y a pas grand-chose qui change. Et donc maintenant, pour avoir la possibilité éventuelle de commander quelque chose, il faut déjà commencer par donner du pognon. Alors déjà, c'est dégueulasse, mais le pire, alors je sais même pas si on peut aller jusqu'à en rire, mais il y a quand même du fort ridicule là-dedans, c'est la raison qui est invoquée pour tout ça. Donc la raison, c'est la lutte contre le gaspillage du papier, car le système en place, avant, on donnait des bons à tout le monde et les personnes commandaient ce qu'ils voulaient, et en vrai de vrai, évidemment, comme les gens sont pas complètement cons, ils utilisaient les bons dont ils n'avaient pas besoin pour commander, pour d'autres raisons. Donc ça faisait tout simplement du papier, des filtres à tabac et tout un tas de trucs. Et donc, évidemment, la conscience écologique des personnes qui gèrent ces tôles semble être vraiment extrêmement pointue, et ils ont donc décidé que pour lutter contre le gaspillage de papier, on allait faire piller les bons, et comme ça, les personnes arrêteraient de demander vraiment des bons pour tout et n'importe quoi, parce que quand même, demander à avoir du papier, ça paraît vraiment une exigence bien au-delà de ce que pourrait mériter n'importe quel tolard dans la vie. Voilà, donc il y a déjà en 98, ça, c'est, ce qui est un peu rigolo, c'est que c'est des vieilles formules qui sont sorties. Alors j'espère qu'à l'époque, ils n'osaient pas déjà justifier ça avec l'écologie, mais c'était déjà des pratiques qui avaient lieu dans la maison d'arrêt de Chartres en 98, où c'était déjà facturé donc 1 franc 90, donc 0,15 centimes d'euros, l'alias complète de bon. Donc évidemment, les gestionnaires des prisons nous disent qu'il y a l'arrivée des bornes numériques, parce que ça aussi, ça va être très écologique, qui va permettre aux détenus de passer les commandes de manière dématérialisée, et donc ce sera la solution au problème. On attendra de voir s'il ne faut pas donner 5 centimes pour pouvoir allumer la machine, mais ça, on verra le moment venu. Pour autant, ces bornes, en vrai, ça n'existe quasiment pas, et avant d'imaginer que toutes les prisons en soient équipées, qu'elles soient facilement accessibles aux prisonniers et aux prisonnières, et que chacune puisse faire ses commandes tranquillement, on imagine bien qu'avec l'emphase que met sur les conditions de vie et la dignité des taulards, l'État ne va pas faire ça tout de suite. Donc voilà, c'était la petite nouvelle écologico-libérale réac de l'État et des prisons, donc du Puy-en-Velay et d'Aurillac. Ah, il y a encore un jingle qui s'est perdu, mais il va revenir.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et donc l'agenda commence, et ben ça commencera demain du coup, puisqu'il est déjà 19h34, donc si vous êtes là, vous n'êtes pas ailleurs. Et il y aura la permanence InfoShop, comme chaque samedi de 14h à 18h à la Lutine. Donc chaque samedi après-midi, l'InfoShop de la Lutine ouvre ses portes aux vagabonds, apatrides, zonards, zonardes et autres voyageurs et voyageuses temporelles. Tout un programme, donc des bons libres, des fanzines, des disques à bas cher, du café gratos et des gens avec qui discuter. Et devinez quoi, c'est à la Lutine.
La Lutine, c'est 91 rue Montesquieu à Lyon 7e. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, mardi, il y a un rassemblement de soutien à un camarade qui a été licencié pour avoir critiqué la politique salariale d'Amazon. Et du coup, le rassemblement se tiendra au Conseil des Prud'hommes. Alors ça, ben voilà, c'est le Conseil des Prud'hommes de Lyon. Et j'ai menti, c'est le lundi 17 janvier à 13h. Donc ce lundi, et voilà, c'est dans Lyon, j'imagine, le Conseil des Prud'hommes.
Oui, je ne saurais pas non plus dire où c'est, mais je suis sûr qu'avec un moteur de recherche efficace, vous pourrez trouver l'info. Mercredi, et ce sera au Clameur de 18h à 21h, projection du documentaire La Bataille de la Plaine avec la présence d'un réalisateur. Marseille, février 2019, la plaine est encerclée par un mur de 2,50 m de haut pour assurer le bon déroulé des travaux. Il enferme brutalement le rêve d'un quartier fait et pensé par ses habitants. Après 3 ans de batailles tumultueuses, comment donner à voir ce qui n'est plus sur les images et qu'on est pourtant sûr d'avoir vécu ? Et donc, c'est toujours au Clameur, mercredi 19 janvier à partir de 18h.
Et vous pourrez aller mercredi, si vous avez envie, à l'AG des chômeurs et chômeuses précaires et intermittentes. En fait, le 5 janvier 2022, les travailleurs et travailleuses de la culture en lutte se sont réunis en assemblée générale pour s'organiser face à la crise qui touche toujours très fort le secteur. Et il y a donc une nouvelle AG le 19 janvier à la Bourse du Travail, place Guichard.
Et pour finir, et ben c'est le troisième jeudi du mois et donc vous avez rendez-vous à 19h à l'Amicale pour rejoindre l'auto-école autogérée, donc pour apprendre à conduire et autres joyeusetés.
Je m'appelle Marius, j'ai 14 ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire à cap.
Gagne info du vendredi.
Et ce soir, eh ben, à cab, ça veut dire des Antilles à Clavière, on s'allie au blocage. Je pense que cet ACAB a déjà été fait, mais encore et toujours ce soir. Eh ben, ACAB, ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire des Antilles à Clavière, on s'allie au blocage. Le Canu Info du vendredi, eh ben, c'est déjà terminé pour ce soir. Mais vous pouvez toujours le réécouter si vous avez envie, si vous n'avez pas entendu le début, c'est facile, il y a un blog, vous tapez Radio Canu, Canu Info, vendredi, et puis un blog, vous allez pouvoir réécouter l'émission et toutes les autres, et tous les autres Canu Info de toute la semaine. Et ça sera avec plaisir, et puis dans tous les cas, on revient la semaine prochaine, ça sera toujours à 19h, mais il y en a même un qui commence lundi de Canu Info à 19h aussi. Merci beaucoup, et bonne écoute sur Radio Canu.